Le débat du jour.
Anne Souhaitemont.
C'est l'application préférée des djihadistes. Telegram, messagerie chiffrée, leur permet de communiquer, de s'organiser, voire de préparer des attentats, de piloter à distance des projets d'attaque dans la plus grande discrétion. L'attentat raté près de Notre-Dame de Paris, il y a quelques semaines, a mis en évidence une nouvelle fois cette année le rôle de cette application. Créée en 2013, elle est entre autres utilisée par un djihadiste français dont on entend beaucoup parler ces temps-ci, Rachid Kassim, qui donne des ordres, manifestement pilote des individus depuis la Syrie ou l'Irak. Deux personnes en lien via Telegram avec lui ont d'ailleurs été mises en examen ce matin. Faut-il pour autant interdire cette application ? C'est le débat de ce soir. Bienvenue. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans ce studio deux invités. Olivier Itéanu, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes avocat, spécialiste du droit du numérique et des communications électroniques. Vous êtes aussi l'auteur d'un livre qui sort dans quelques jours, le 13 octobre, et qui s'intitule « Quand le digital défie l'état de droit », un livre qui paraît aux éditions Erol. Notre deuxième invité est à ma droite, Mounir Majoubi, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes le président du Conseil national du numérique. Alors, avant de vous demander, messieurs, votre position sur la question, de rentrer dans le vif du débat, je voudrais qu'on fasse un petit point sur cette application. Elle est donc utilisée par des terroristes, on le voit dans l'actualité, on en parle beaucoup, mais pas seulement. Elle est aussi utilisée par des politiques, on dit par exemple qu'Emmanuel Macron l'utilise, par des activistes de tous bords, par des citoyens qui souhaitent juste échapper aux agences de renseignement. Olivier Itéanu, Telegram, c'est avant tout un outil qui permet de garantir les libertés de chacun aussi à communiquer.
Oui, parce que nous vivons dans une tension entre la surveillance et la liberté. Cette tension, elle a été parfaitement décrite, par exemple, par Edward Snowden, où, pour rapporter ses propos, je dirais, chaque antenne relais que vous croisez, chaque email que vous adressez, chaque accès que vous faites, chaque coup de téléphone que vous donnez, tout ça est totalement surveillé dans un espèce de partenariat public-privé entre les États, et en particulier le gouvernement des États-Unis, et puis les principaux fournisseurs de tous ces services que sont beaucoup d'entreprises de la Silicon Valley. Face à ça, qu'est-ce qui reste aux citoyens ? La loi, on a des grandes difficultés aujourd'hui à l'appliquer pour des questions très rapidement, notamment territoriales. Et puis, il reste aussi aux citoyens la possibilité de se défendre. Et comment peut-il se défendre ? En recourant justement à des messageries de type de Telegram, utilisées par beaucoup de gens, et utilisé aussi notamment par des djihadistes, comme ils utilisent Internet, comme ils utilisent beaucoup de services.
Et comme le faisait d'ailleurs remarquer un tweetos sur notre page Facebook, ils écrivent aussi des lettres et on n'a pas interdit la poste, nous a-t-il dit. Je vous poserai la question juste après. Mounir Majoubi, sur ce que représente Telegram, vous êtes d'accord ? C'est aussi un moyen de la liberté aujourd'hui pour le citoyen que vous êtes, que je suis, que nous sommes ?
Telegram et toutes les applications de communication et Internet lui-même. Oublions pas que la révolution incroyable, c'est qu'on peut communiquer aujourd'hui grâce à Internet avec des gens avec qui on le faisait pas avant. On peut communiquer tout le temps, on peut communiquer de partout, et ça, c'est un grand succès. Les outils de messagerie privée, de messagerie sécurisée, c'est que l'étape d'après, et qui est un peu ce que vous faites quand vous parlez à quelqu'un dans le monde réel. Parfois, vous avez envie d'être sûr que vous êtes dans une pièce, ou quand vous parlez avec quelqu'un, vous savez que personne vous écoute. Quand vous utilisez le courrier, vous savez qu'il y a des règles internationales qui font qu'on n'ouvre pas le courrier, ou que quand il a été ouvert, ça se voit. Eh ben, la messagerie sécurisée, c'est redonner un peu de réalité, un peu de matérialité à ce secret. Moi, parfois, j'ai envie, même si j'ai rien à cacher à l'État, rien à cacher à personne, j'ai envie d'être sûr que dans l'échange que j'ai avec une personne, cet échange soit crypté, soit privé.
Alors, sauf qu'effectivement, il y a ce contexte du terrorisme en ce moment, les citoyens se la posent, cette question. Est-ce qu'il ne faut pas interdire une application qui peut permettre, dans certains cas, pas dans tous, évidemment, à des terroristes de s'organiser, de commettre un attentat, Mounir Majoubi ?
Le grand danger, c'est pas d'interdire une application, c'est d'interdire le principe même du chiffrement des communications. L'annonce qui a été faite au mois d'août et qui a donné lieu à une tribune que nous avons publiée dans Le Monde au courant du mois d'août, c'était une annonce du ministre de l'Intérieur avec son annonçant une rencontre avec son homologue allemand, invitant à interdire le chiffrement ou à limiter le chiffrement des communications personnelles.
Il est depuis revenu un petit peu dessus. On ne parle plus vraiment d'interdiction, mais de contrôle.
De contrôle, mais dont les modalités techniques amèneraient à en fait limiter. Parce que, en fait, quand une communication est chiffrée, le seul moyen de permettre de lire le contenu à l'intérieur, c'est de créer un mécanisme par derrière, un mécanisme sur le côté, un mécanisme discret qui limite ce chiffrement ou qui crée une clé qui permet de déchiffrer. Si cette clé, elle est stockée quelque part, bah, j'ai beau chiffrer, mais si quelqu'un a la clé, ça sert à rien.
Donc, c'est ce comme que vous nous dites, c'est que si on se dit qu'il faut déchiffrer les messageries chiffrées, on met fin à tout un mécanisme qui permet de préserver des données, c'est ça?
Bah, c'est comme si on imposait que sur toutes les portes blindées, il y a une autre petite serrure posée en dessous avec la clé donnée aux États, en disant, vous inquiétez pas, vos portes blindées continuent de fonctionner, et il y a quand même cette petite clé qu'on utilisera quand il y aura vraiment besoin.
Vous êtes d'accord, Olivier Itanu?
C'est-à-dire que je trouve que l'existence de ce débat montre qu'on manque probablement de maturité sur ces questions-là. Pourquoi? Parce qu'on est dans une partie de gendarmes et de voleurs. Alors, on espère tous que le gendarme va gagner. Mais le voleur a toujours un peu d'avance sur le gendarme. Est-ce qu'il faut arriver jusqu'à l'interdiction pour permettre au gendarme de rattraper le voleur? Je crois pas. Et puis, c'est surtout focaliser sur une application de Telegram, c'est quand même oublier qu'il n'y a pas que le renseignement électronique. Par exemple, depuis quelques années, en France, on autorise la police, dans beaucoup de cas, à l'infiltration, c'est-à-dire à infiltrer les groupes, notamment djihadistes, et pour les confondre.
Manifestement ce qui s'est passé avec ces arrestations qui se sont multipliées ces derniers jours. On s'est demandé, est-ce que des policiers avaient pu infiltrer ces groupes de messagerie, puisqu'elles fonctionnent aussi en groupe d'usagers, ou bien si on avait pu déchiffrer une messagerie chiffrée. Donc vous vous dites, c'est plutôt de l'infiltration.
Oui, c'est un peu le pot de miel. C'est-à-dire que c'est d'une certaine manière, il faudrait interroger le procureur de la police, mais je pense qu'il serait d'accord avec nous pour dire que quelque part, d'une certaine manière, c'est une façon de localiser les djihadistes et peut-être de les infiltrer pour mieux les contrer.
Alors je précise, parce que ça peut peut-être donner un début d'élément de réponse à nos auditeurs, que nous avons invité les policiers, mais qu'ils ne souhaitaient pas s'exprimer sur le sujet, puisqu'il doit être effectivement assez délicat. Continue.
Oui, donc je disais, l'infiltration paraît important, le renseignement humain paraît important, et tout focaliser sur une application électronique me paraît pas très mature. Et puis on serait dans une espèce de course où, une fois fermé Telegram, on aurait évidemment d'autres messageries qui seraient sur d'autres lieux et peut-être moins accessibles. Donc je pense que, sans évidemment, on est tous d'accord pour qu'encore une fois tout soit fait vis-à-vis du terrorisme et de ces actes abjects, mais je crois qu'il faut aussi avoir raison gardée, ce qui est très difficile dans notre époque.
Mounir Majoubi, Olivier Itanu nous dit si on interdit cette messagerie, eh bien, de toute façon, il y en a d'autres. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il y en a beaucoup? Est-ce qu'il y a du chiffrement encore plus complexe que ce qui existe déjà via Telegram?
Ben oui, et la question de Telegram, elle se pose que pour un type de public, pour un type d'écoute. C'est les primo accédants au djihadisme. C'est les débutants du djihadisme. On ne pourra jamais, ou dans les relations que...
Oui, parce que Rachid Kassim n'a pas l'air d'être un primo djihadiste, apparemment.
Hein. Mais c'est dans le cadre de ses relations et des messages qu'il envoyait, justement, à ses soutiens. On pourra jamais aujourd'hui, il faut quand même qu'on ait ça en tête, deux experts terroristes ou deux organisations criminelles mondiales qui décident et qui se connaissent déjà de communiquer l'un avec l'autre, aujourd'hui ils ont des moyens de communication ultra cryptés, ultra sécurisés, qui sont bien au-delà de ce qu'on sera jamais capable d'écouter. C'est pour ça que si on revient à l'objectif principal...
Alors lesquels par exemple? Vous nous dites qu'il y a des moyens impossibles aujourd'hui à écouter, encore pire si je puis me permettre que Telegram, lesquels?
Le chiffrement ad hoc des communications.
Là, en fait, qu'est-ce que ça veut dire?
Ça veut dire on se débrouille nous-mêmes pour chiffrer la communication qu'on a avec l'autre personne. Aujourd'hui, vous doutez bien que deux chefs d'État qui communiquent avec des moyens de communication ultra cryptés et à des niveaux de chiffrage très élevés. Aujourd'hui, ces niveaux sont interdits et sont très durs à mettre en place dans des applications grand public. Mais encore une fois, des organisations organisées, avec des moyens, avec des experts, ont tous mis en place ce type d'éléments. Donc ce dont on parle, et c'est là où il faut revenir à l'objectif, c'est... Comment on fait pour infiltrer, écouter, savoir ce qui se passe avec les wannabe djihadistes, ceux qui rentrent dans un processus? Et si on interdit ces messageries, si on interdit ou si on ferme Telegram du jour au lendemain, on perd un bassin incroyable aujourd'hui d'écoute, d'infiltration et de connaissance du processus. Et puis l'élément, et si on revient à la mission principale, la mission c'est mettre fin au terrorisme, c'est mettre fin à ces réseaux. Mettre fin à ces réseaux, ça ne veut pas dire mettre fin à leurs outils. Et mettre fin à leurs réseaux, c'est les connaître. Et puis, c'est aussi empêcher les gens d'y rentrer. Et pour ça, il y a le contre-discours. Pour ça, il y a l'État ou les organisations ou les associations peuvent être source de nouveaux contenus, peuvent elles aussi transmettre des messages, peuvent elles aussi faire une propagande positive sur les messages anti-djihadistes. Il y a tous ces moyens d'action qui sont nécessaires. Et aujourd'hui, ce qui nous a beaucoup choqués pendant cet été, c'est qu'on ne parle pas de ça. Et moi, je veux être certain, et le problème, c'est que tout est classifié, tout est secret défense. C'est heureusement qu'on n'est pas au courant de tout et heureusement qu'on a un État qui nous protège. Mais Moi, je veux être certain, et c'est ça que j'attends du gouvernement, et qui nous rassure souvent sur ces sujets, qu'on a bien mis les moyens dans des équipes humaines capables d'infiltrer, capables d'écouter dans toutes les langues, présents 24 heures sur 24, sur toutes ces messageries qui comprennent les dynamiques d'un adolescent, d'une adolescente, qu'on ait des psychologues partout. Je veux être sûr qu'on a ça.
Mais ce que vous nous dites, c'est qu'il n'y a pas débat, en fait. Pour vous, on s'attache à poser une mauvaise question. Qu'est-ce que vous en pensiez? Je vous voyais réagir.
Non, cette affaire, si je puis dire, je ne sais pas si c'est une affaire, me rappelle une autre qu'on a vécue il y a quelques mois, qui est, pour le coup, l'affaire entre Apple et le FBI, où le FBI demandait ou mettait en demeure à Apple de lui donner les clés de déchiffrement de son équipement.
Des portables des auteurs de la fusillade de San Bernardino.
Exactement. On a le sentiment, et c'est par exemple l'avis d'un grand expert comme Bruce Schneier, qui a écrit un livre qui s'appelle Data and Goliath, et qui est un très très grand expert de la cryptologie dans le monde, on a l'impression que les États lancent des ballons d'essai quelque part jouent un jeu à la fois d'intimidation et de recherche de coopération des acteurs. Je vous ai dit tout à l'heure que l'hypersurveillance que l'on vit aujourd'hui, de masse, qu'on n'a jamais vécu, parce que la surveillance jusqu'à présent des États était très individuelle, c'était la filature, c'était des choses. Aujourd'hui, on est dans une surveillance de toutes les populations.
Mais est-ce que c'est si nouveau ou est-ce que c'est qu'aujourd'hui, on le sait?
C'était réservé aux pays totalitaires. Dans les pays totalitaires, on surveillait les populations, on le sait. Aujourd'hui, les pays démocratiques, parce qu'on reste quand même un pays démocratique, il ne faut pas se leurrer, quand même, faut pas non plus tomber dans l'excès inverse, mais les pays démocratiques surveillent leur population, oui, comme le faisaient les pays totalitaires. Les pays démocratiques ne faisaient que de la surveillance individuelle.
Donc pour vous, cette question de l'interdiction de Telegram, c'est vraiment une question de principe?
Je pense que c'est une tentative pour intimider les acteurs économiques pour qu'ils rentrent dans ce partenariat public-privé que j'évoquais tout à l'heure, qui existe aux États-Unis, hein, c'est le fameux programme PRISM qui avait été imposé par la NSA, plus ou moins imposé à de très grands acteurs américains. Donc, ils sont constamment en recherche et on manie la carotte et le bâton. On menace d'interdiction. Tout ça pour pouvoir obtenir leur partenariat, leur collaboration pour la surveillance.
Alors, on a bien compris l'intérêt de l'État dans l'affaire. Rappelons aussi qu'il y a un intérêt économique de l'autre côté, hein, puisque Telegram a intérêt, évidemment, à rester une messagerie bien chiffrée. Est-ce qu'on est sûr que ces messageries ne sont pas déchiffrables, Mounir Majoubi?
En tout cas, il y a un sujet autour de Telegram qui est le secret. Aujourd'hui, on ne sait pas grand-chose de l'architecture hardware, de l'architecture serveur de Telegram. L'architecture juridique de Telegram est aussi faite de telle manière qu'il est très dur pour un juge d'un pays, donc un juge, pas un service de renseignement, c'est un juge, d'exiger de Telegram au moins des informations de connexion, pas le contenu des messages.
Parce que si la justice passe par là, ça offre quand même des garanties d'indépendance. C'est pas l'État qui demande, c'est la justice.
Tout à fait. Et aujourd'hui, il y a un sujet sur développer la collaboration des opérateurs privés de communication en ligne dans le cadre des demandes d'un juge. Un opérateur de télécom, la question, elle se pose plus. Les fadettes des journalistes, tout ça. Quand il y a la décision d'un juge, l'opérateur télécom ne pose pas de questions. Immédiatement, il transmet les métadatas, les datas, etc.
Et aujourd'hui, alors, sur Telegram, vous y seriez favorable? Est-ce que ce serait possible d'avoir ce même type de procédure si ça passait par un juge dans le cadre d'une procédure antiterroriste, par exemple?
Moi, je vais vous redire ma position et celle du Conseil. C'est dans le cadre d'une procédure avec un juge qui a permis de donner une décision équilibrée dans le cadre d'une enquête où cela est nécessaire sur une personne ciblée. Il faut que les données, mais pas le contenu des messages, ils sont chiffrés, donc on peut pas les déchiffrer, mais que les données autour, c'est-à-dire depuis où, quand, combien de fois par mois, combien de fois par jour cette adresse internet communique avec cette adresse internet-là, ça je veux qu'on puisse le sortir. Mais Telegram vous répond quelque chose qui est quand même un élément complexe. Je vous dis ça parce qu'on est français. Mais quand c'est un pays avec lequel on n'a pas forcément confiance, est-ce que Telegram doit le faire? Si c'est un juge nord-coréen qui lui exige ses données, on lui donne ou pas? Et là, le patron de Telegram dit, moi je vais tout faire pour ne jamais avoir à être obligé de répondre à tous les juges du monde.
Alors là, justement, vous nous parliez tout à l'heure de territorialité en tant que juriste. Comment vous vous positionnez là-dessus?
C'est un énorme problème dont on n'a peut-être pas tout à fait conscience et qui est effectivement, vous citiez mon ouvrage « Quand le digital défie l'état de droit », j'ai pris le mot « digital » parce que c'est un mot anglais et ça veut dire beaucoup de choses, c'est qu'aujourd'hui, relisez les conditions générales d'utilisation de Facebook, Google, Twitter et autres, bien toutes ces conditions générales d'utilisation sont annoncées comme étant en droit californien et soumis en cas de litige au juge californien. Ça veut tout dire. Et ça, c'est un autre problème que le problème direct de Telegram, mais c'est que nous avons aujourd'hui une difficulté en Europe, c'est que nous sommes très perméables à de très grands, à de très nombreux services qui sont américains, et ces services se considèrent sous loi américaine et pas sous loi européenne.
Et ça c'est y aurait une solution juridique pour essayer d'harmoniser tout ça, de sécuriser tout ça?
Bah d'abord, est-ce que c'est légal ce qu'ils font? Est-ce que c'est légal d'offrir à des consommateurs européens leurs services en droit américain, comme ils l'affichent? La réponse est non. Mais Google, Facebook, par exemple, a été condamné en 2012 par la Cour d'appel de Pau, puis en 2016 par la Cour d'appel de Paris. Or, à l'heure où nous, parlons, à la minute où nous parlons, dans les conditions générales d'utilisation de Facebook, Facebook Inc., la société américaine, continue à afficher le droit californien, le juge californien. Il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus, mais c'est une...
Donc on pourrait imaginer par exemple une class action des usagers de Facebook qui se retourneraient contre Facebook, c'est ce que vous nous dites, ils pourraient gagner.
Il faudrait mettre en place en France de manière facilitée, effectivement, notamment des class action, ça serait évidemment une des solutions.
Mounir Lajoubi, vous voulez réagir?
Ah ouais, il y a deux questions de droit très importantes. La première, c'est celle de l'accord TTIP dont on parle beaucoup et le free flow of data.
C'est un accord dont
le monde se fiche complètement.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Parce que là, j'avoue mon ignorance.
C'est l'accord de commerce transatlantique entre l'Europe
et TTIP,
dans lequel il y a un élément sur le free flow of data et qui permettrait justement de ne plus se poser la question de la territorialité des données et qui permettrait à ces grands opérateurs américains de soumettre à leurs propres lois et de stocker chez eux l'intégrité des données des consommateurs européens. Aujourd'hui, tous les pays d'Europe soutiennent et signe et ne négocie même pas sur cette clause-là. On a la chance en France, Matthias Fekl l'a encore annoncé aujourd'hui, il va le répéter à Bratislava dans deux jours, un ministre qui dit « nous ne signerons pas TTIP ». En partie pour ça, parce qu'on veut pas que les données des utilisateurs français puissent librement circuler sous droit américain de l'autre côté de l'Atlantique.
Alors attendez, juste une réaction sur ce premier point de droit, mais je sais que vous en avez un second, vous partagez cette analyse, il ne faut pas signer le TTIP pour cette raison.
Mais ça serait une catastrophe. L'Europe deviendrait la colonie numérique des États-Unis. Ce qui nous reste comme défense, c'est les moyens techniques comme nous avons évoqué avec Telegram, et j'espère la loi. Or, si les Américains réussissent à mettre sur la touche l'application des lois européennes et que nous sommes en droit américain sur la totalité des services que nous utilisons du matin jusqu'au soir, c'est une catastrophe.
Et il y avait un deuxième point juridique que vous vouliez aborder, Mounir Majoubi.
Et oui, et là c'est un point judiciaire qui est qu'aujourd'hui, si dans le cadre d'une enquête, avec décision d'un juge, je veux accéder à des données non chiffrées sur un serveur basé aux États-Unis, sur un serveur basé en Allemagne, je dois attendre plusieurs semaines et suivre une procédure, alors qui est quand même une procédure issue d'accords internationaux, mais je dois attendre plusieurs semaines et plusieurs mois. Vous imaginez, dans une enquête terroriste avec l'urgence, je dois attendre plusieurs semaines et plusieurs mois. S'il y a une initiative internationale à avoir, c'est plutôt à faciliter ces collaborations judiciaires et à accélérer ces procédures judiciaires pour que un Facebook avec WhatsApp, par exemple, et à répondre d'un juge américain qui transmet la demande du juge français dans les jours qui suivent, voire les heures qui suivent.
Et c'est ça qui faut faire. Des discussions en ce sens, ça existe aujourd'hui ou on en est très loin, Olivier Itéanu?
On en est très très loin, très très loin. Je partage pas tout à fait l'optimisme là de Mounir sur cette question. Moi, je souhaite que à partir du moment où un WhatsApp ou un Facebook sert les citoyens européens, je souhaite que son service soit en droit local, c'est-à-dire en droit européen, en droit français pour les Français. On ne peut pas nous demander, on ne peut pas courir après notre trafic, notre argent, faire des conditions générales d'utilisation en langue française, donc faire de la publicité en langue française et soumettre son service au droit américain. Et il faut qu'on impose l'Europe ait la volonté. Le problème, ce n'est pas Facebook et compagnie. Le problème, c'est nous. C'est que nous manquons de volonté.
Et là, ça se situe au niveau national ou au niveau européen?
Je crois que c'est le bon niveau, c'est l'Europe, bien sûr. On ne pèse pas grand-chose. Mais on peut aussi montrer le chemin.
Mounir Majoubi, est-ce que vous, en tant que justement observateur du numérique, vous essayez de pousser en ce sens?
Et extrêmement. On rencontre le commissaire européen Oettinger dans deux semaines à Bratislava, en partie pour aborder ces questions-là. Et encore une fois, parce qu'il est invisible, personne ne le voit, mais Matthias Fekl, sur ces questions-là, qui est le secrétaire d'État au commerce extérieur et qui essaye de parler, mais qu'on n'écoute pas, parce que ce sujet, il intéresse pas grand monde. C'est un sujet majeur, ce TTIP et ce free flow of data, et la souveraineté des données des utilisateurs français, là où ils sont.
Merci beaucoup. Merci à nos deux invités pour ce débat. Merci. Le temps est passé très vite. Merci donc à Olivier Itéanu, avocat. Vous êtes l'auteur de ce livre hein, dont on a parlé, qui sort dans quelques jours, le 13 octobre, quand le digital défie l'état de droit, qui paraît aux éditions Erol. Merci également à vous, Mounir Majoubi, président du Conseil national du numérique. Merci à Florence Ponce, à Hélène Avril. On se retrouve demain pour un nouveau débat. Merci d'écouter RFI.